Chers amis, Saint Jean, dans sa première lettre, nous a dit « Dieu est lumière » et puis « Dieu est amour ». Et on peut dire que l'un et l'autre vont ensemble. Au chapitre 2 de sa première lettre, il écrit « Celui qui prétend être dans la lumière tout en haïssant son frère est encore dans les ténèbres. Celui qui aime son frère demeure dans la lumière et il n'y a en lui aucune occasion de chute. » Saint Jean nous montre ici le lien entre l'amour et la lumière et entre la haine et les ténèbres. Celui qui vit dans l'amour manifeste qu'il a accueilli en lui l'Esprit Saint, la personne amour au sein de la Trinité, la personne don, comme l'appelait Saint Jean-Paul II. Je vous ai parlé la dernière fois de Sainte Mère Thérésa, de son apostolat d'amour auprès des plus pauvres. Cet apostolat vécu par amour pour le Christ et en réponse à son appel d'être une lumière envoyée dans les bidonvilles obscures des plus pauvres. Or, Mère Thérésa a été cette lumière en aimant, dans un don total d'elle-même. Et cela passait par des toutes petites choses, des services rendus, des soins prodigués à tous sans distinction de religion, des visites aux familles pauvres, aux malades, le recueil des enfants orphelins, l'accompagnement des mourants. Voyez, la bonté rayonne la lumière de Dieu. L'amour porte en lui-même son rayonnement et se propage. Et c'est ainsi que la civilisation de l'amour, comme l'appelait Saint Jean-Paul II, se répand, non par des actions éclatantes, mais par le service humble, le don de soi, le sourire donné. Mère Thérésa, par l'amour du Christ qui l'habitait, a ainsi allumé une lumière dans les cœurs d'une multitude de personnes. Et un petit exemple de sa vie illustre, comme une parabole, sa vocation auprès des pauvres. Un jour qu'elle visitait les faubourgs pauvres de Bourke, une ville d'Australie, elle est entrée dans une petite cabane formée d'une seule pièce, et elle a dit à l'homme qui habitait là, « S'il vous plaît, laissez-moi faire votre lit, lavez vos vêtements, nettoyez votre chambre. » Et lui ne cessait de dire « Pas la peine, ça va !» Et elle lui a répondu « Mais cela ira encore mieux si vous me laissez faire. » Et il l'a laissé faire. Puis il lui a montré une petite photo de son père. Elle l'a regardée et elle lui a dit « Oh, vous, vous ressemblez beaucoup à votre père. » Et lui, il a été fou de joie qu'elle ait vu la ressemblance avec son père sur son visage. Après avoir nettoyé la pièce, elle a trouvé dans un coin une grande lampe pleine de poussière et elle lui a dit « Vous n'allumez pas cette lampe ? Une lampe si belle, vous ne l'allumez pas ?» Il a répondu « Pour qui ? Depuis des mois et des mois, personne n'est jamais venu me voir. Pour qui l'allumerais-je ? » Alors Mère Thérésa lui a répondu « Ne l'allumeriez-vous pas si les sœurs venaient vous voir ?» Et il a répondu « Si. » Et alors les sœurs ont commencé à venir le voir, juste 5 ou 10 minutes par jour. Puis elles ont commencé à allumer la lampe. Et au bout d'un moment, il a pris l'habitude de l'allumer lui-même. Et puis les sœurs sont passées de loin en loin. Mais un jour, au bout de 2 ans, cet homme a fait dire à Mère Thérésa « Dites à Mère, mon amie, que la lumière qu'elle a allumée dans ma vie brille toujours. » Voilà le fruit de la délicatesse d'un cœur qui aime. Mère Thérésa, par son attention toute simple à ce vieil homme, avait allumé la lumière de la résurrection dans la nuit de son cœur, et cette lumière ne s'est plus éteinte. Les œuvres de Dieu sont toujours lumineuses. D'ailleurs, Dieu se plaît à le manifester visiblement. Nous le voyons dans les apparitions, notamment à Fatima. La première apparition de l'ange décrite par Sœur Lucie est éloquente. Nous étions à jouer depuis quelque temps, et voici qu'un vent secoua les arbres et nous fit lever les yeux pour voir ce qui se passait. Alors nous avons aperçu, au-dessus des arbres qui s'étendaient au levant, une lumière plus blanche que la neige, présentant la forme d'un jeune homme transparent, plus brillant qu'un cristal traversé par les rayons du soleil. À mesure qu'il s'approchait, nous pouvions en distinguer les traits. Un jeune homme dans les 14 à 15 ans, d'une grande beauté. Les enfants se sont donc retrouvés devant une apparition toute de lumière, tellement lumineuse qu'ils ne pouvaient distinguer les traits du jeune homme. Celui-ci non seulement s'est présenté dans la lumière, mais il était lui-même traversé par la lumière. Quant à la première apparition de la Vierge Marie le 13 mai 1917, elle fut tout aussi lumineuse. Alors que les enfants jouaient à la Cova d'Aeria, leur attention fut attirée par deux lueurs semblables à l'éclair. Puis ils virent la Mère de Dieu sur le chêne vert. Sœur Lucie la décrit ainsi. Une dame toute vêtue de blanc, plus brillante que le soleil, répandant une lumière plus claire et plus intense qu'un verre de cristal rempli d'eau cristalline, traversé par les rayons du soleil le plus ardent. Ses vêtements aussi semblaient tout faits de lumière. Quant aux traits de la physionomie de Notre-Dame, Lucie n'a jamais pu les décrire, car il lui fut impossible de fixer ce visage céleste, tant il rayonnait de lumière. Et les voyants étaient tellement près de Notre-Dame qu'ils se trouvaient dans le halo de lumière qui l'entourait ou qu'elle répandait. On a l'impression, à écouter ce témoignage, que les trois petits voyants, Lucie, Jacinthe et François, ont fait la même expérience que les trois apôtres Pierre, Jacques et Jean sur le mont Tabor, devant le Christ transfiguré. Matthieu, en effet, dans son évangile, décrit cette transfiguration du Christ en disant « Il fut transfiguré devant eux. Son visage resplendit comme le soleil et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. » Mélanie, la jeune bergère et voyante des apparitions de la Salette, nous fait un portrait à peu près identique. Voici ce qu'elle dit à propos de l'apparition de la Vierge Marie. « Ne voyant pas nos vaches, j'appelai Maximin et je gravis le petit monticule. De là, ayant vu que nos vaches étaient couchées tranquillement, je redescendais. Quand tout à coup, je vis une belle lumière, plus brillante que le soleil. Et à peine ai-je pu dire ces paroles. « Maximin, vois-tu là-bas ? Ah, oh, mon Dieu !» Je ne sais ce qui se passait en moi de délicieux dans ce moment. Mais je me sentais attirée, je me sentais un grand respect plein d'amour, et mon cœur aurait voulu courir plus vite que moi. Je regardais bien fortement cette lumière qui était immobile, et comme si elle fût ouverte, j'aperçus une autre lumière bien plus brillante et qui était en mouvement, et dans cette lumière une très belle dame, assise, ayant la tête dans ses mains. Cette belle dame s'est levée et nous regardant, elle nous a dit « Avancez, mes enfants !» N'ayez pas peur, je suis ici pour vous annoncer une grande nouvelle. Ces douces et suaves paroles me firent voler jusqu'à elle et mon cœur aurait voulu se coller à elle pour toujours. Mélanie décrit ensuite la Sainte Vierge. La douceur de son regard, son air de bonté incompréhensible, faisait comprendre et sentir qu'elle attirait à elle et voulait se donner. C'était une expression d'amour qui ne peut pas s'exprimer avec la langue de chair ni avec les lettres de l'alphabet. Le vêtement de la très sainte Vierge était blanc argenté et tout brillant. Il n'avait rien de matériel. Il était composé de lumière et de gloire, variant et scintillant. La Sainte Vierge était toute belle et toute formée d'amour. En la regardant, je languissais de me fondre en elle. Elle paraissait belle, blanche, immaculée, cristallisée, éblouissante, céleste, fraîche, neuve comme une vierge. Il semblait que la parole « amour » s'échappait de ses lèvres argentées et toutes pures. Elle me paraissait comme une bonne mère pleine de bonté, d'amabilité, d'amour pour nous, de compassion, de miséricorde. Et lorsque la Vierge les quitte, voici ce qu'en dit Mélanie. « Ma belle dame regarda le ciel. » Puis la terre à sa droite et à sa gauche. Puis elle me regarda avec des yeux si doux, si aimables et si bons que je croyais qu'elle m'attirait dans son intérieur. Et il me semblait que mon cœur s'ouvrait au sien. Et tandis que mon cœur se fondait en une douce dilatation, la belle figure de ma dame disparaissait peu à peu. Il me semblait que la lumière en mouvement se multipliait ou bien se condensait autour de la très sainte Vierge, pour m'empêcher de la voir plus longtemps. Ainsi la lumière prenait la place des parties du corps qui disparaissaient à mes yeux. Ou bien il semblait que le corps de ma dame se changeait en lumière en se fondant. Ainsi la lumière en forme de globe se levait doucement en direction droite. Je suis restée la tête levée, les yeux fixés sur la lumière, même après que cette lumière, qui allait toujours s'éloignant et diminuant de volume, finit par disparaître. Il me semble que c'est important d'avoir ces témoignages, d'abord parce que nous y voyons bien le lien entre la lumière et l'amour, puisque Mélanie semble dire que la Vierge toute lumineuse est aussi toute d'amour, toute miséricordieuse. Et d'autre part, ce témoignage est aussi important pour nous rappeler la réalité historique de la transfiguration. En effet, il y a eu quelques courants dans l'Église, chez certains théologiens, pour dire que les miracles, la transfiguration, la résurrection du Christ, tout cela était une métaphore. Tout cela n'était que symbolique finalement, et non réel. C'était juste une manière de raconter les choses. Or, les apôtres qui ont rapporté les faits n'ont rien inventé quand ils nous ont dit qu'ils avaient vu le Christ rayonnant de lumière, le visage comme un soleil, les vêtements blancs comme la lumière. Ils ont parlé de ce qu'ils avaient réellement vu, et non de ce qu'ils auraient inventé après coup pour mettre du merveilleux. Saint Jean, dans sa première lettre, nous a mis en garde contre une lecture qui ne s'appuierait pas sur le réel. Voici ce qu'il disait. Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé, ce que nos mains ont touché du Verbe de vie, car la vie s'est manifestée, nous l'avons vu, nous en rendons témoignage. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons. Les évangiles ne sont pas une élucubration ni de cerveaux dérangés, ni d'apôtres qui auraient inventé des fables pour valoriser leur maître. Non, les apôtres témoignent de ce qu'ils ont réellement vu. Et ce qu'ils ont vu, c'est bien un homme transfiguré, lumineux de la lumière divine, rayonnant de clarté, dont même les vêtements sont devenus blancs comme la lumière. Saint Pierre lui aussi atteste le réalisme de cette vision, puisque dans sa deuxième épître au chapitre 1er, il écrit « Ce n'est pas en suivant des fables sophistiquées que nous vous avons fait connaître la puissance et l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ, mais après avoir été témoins oculaires de sa majesté lors de la transfiguration. Il reçut en effet de Dieu le Père honneur et gloire, lorsque du sein de la gloire magnifique lui parvint cette parole « Celui-ci est mon Fils bien-aimé qui a toute ma faveur. » Cette voix, nous l'avons entendue. Elle venait du ciel. Nous étions avec lui sur la montagne sainte. On perçoit bien ici l'insistance de Jean et de Pierre pour dire et attester que ce qu'ils ont vu était bien la réalité, leur témoignage découlant de leur expérience vécue et non d'une construction imaginaire. Et le Seigneur lui-même a voulu confirmer au long des siècles la véracité du témoignage de ses apôtres en se manifestant comme lumière à certains saints jusqu'à les transfigurer eux-mêmes par la lumière qui émanait de lui. Nous en avons un beau témoignage dans la personne de saint Siméon, le nouveau théologien, moine ayant vécu à Constantinople au Xe siècle. Parmi toutes les différentes visions et manifestations divines qu'il a vécues, c'est la vision de la lumière qui occupe certainement la première place dans son expérience mystique. Il en parle constamment dans ses écrits, soit comme d'un phénomène mystique intérieur, ou même extérieur, soit pour montrer Dieu apparaissant comme lumière. Mais en fin de compte, c'est à peu près la même expérience. Lors des premières apparitions lumineuses, il ne sait pas quelle est la nature et l'origine de cette lumière. Bien sûr, il sent que c'est une apparition divine, mais il reste dans l'incertitude jusqu'au moment où la lumière elle-même lui révèle qui elle est. Dans ses écrits, il parle de la première vision de la lumière qu'il a eue de nuit, alors qu'il était jeune. Il parle de lui à la troisième personne. « Soudain, dit-il, alors qu'il disait, « Ô Dieu, sois-moi propice à moi qui suis pécheur !» Sur lui brilla d'en haut avec profusion une illumination divine qui emplit entièrement l'endroit. Là-dessus, le jeune homme ne se rendit plus compte. Il oublia s'il était dans une maison ou s'il se trouvait sous un toit, car il ne voyait de toutes parts que de la lumière. Rien de tout ce qui atteint les hommes et les êtres doués d'un corps n'atteignait alors sa pensée. Mais tout entier présent à la lumière immatérielle, et lui-même à ce qui lui semblait devenu lumière, oublieux du monde entier, il fut inondé de larmes, d'une joie et d'une allégresse inexprimables. Ce que saint Siméon avait reçu par pure grâce au début de sa vie spirituelle, il l'obtint de nouveau plus tard, mais à force d'ascèse, de prières constantes et surtout d'humilité. Son père spirituel lui avait en effet révélé les conditions pour espérer recevoir à nouveau la grâce d'une telle visitation de la lumière. « Sache, enfant, lui avait-il dit, que ce n'est ni le jeûne, ni la veille, ni la fatigue corporelle, ni aucune autre action louable qui réjouit Dieu et qui le fait apparaître, mais seulement l'âme et le cœur humble, modeste et bon. » Siméon relate alors une nouvelle expérience de la lumière. « J'entrais donc là où j'avais l'habitude de prier, et je commençais. Saint Dieu, Saint fort, Saint immortel. Quand, au souvenir des paroles de mon père spirituel, soudainement, j'éclatais en larmes et en transports d'amour divin, au point que je ne serais pas capable de représenter par des mots la joie et le plaisir que j'eus à ce moment. Aussi, sur le champ, tombant prosterné à terre, je vis. Et voici, une grande lumière brillant sur moi, et attirant en même temps à elle mon intelligence tout entière et mon âme, au point que l'inattendu de la merveille me frappa de stupeur et que je fus comme en extase. Et ce n'est pas tout. J'oubliais le lieu où je me trouvais, qui j'étais et à quel endroit, me contentant de crier « Kyrie eleison !» Mais qui était celui qui parlait, je ne sais. Dieu le sait. Oui, si ce fut dans mon corps, si ce fut hors de mon corps que je m'entretins avec cette lumière, la lumière elle-même le sait, elle qui avait dissipé tout ce qu'il y avait de brume en mon âme et tout sentiment terrestre, qui avait chassé de moi cette pesanteur du corps qui avait produit en mes membres lassitude et engourdissement. Sur le champ, une joie immense, un sentiment intellectuel, une suavité surpassant toute savoir des choses visibles, en découlèrent dans mon âme d'une façon indicible. Siméon affirme que cette lumière rayonne comme un soleil et que d'elle émane une telle douceur que l'âme en est toute bouleversée. Quand on entend son témoignage, on a l'impression d'entendre le témoignage de saint Jean dans le début de sa première lettre qui nous disait émerveillé « La vie éternelle nous est apparue, nous l'avons vue ». Siméon témoigne de ce qu'il vient de vivre à son père spirituel. « J'ai vu, lui dit-il. » Et lui répond, « Qu'est-ce que tu as vu, mon fils ?»« Une lumière, père, douce, douce, tellement que je n'ai pas la pensée assez forte, père, pour te dire combien. » Et pendant qu'il parle ainsi, son cœur bondit et palpite et s'enflamme aussitôt du désir de celui qui l'a vu. Puis il se remet à parler avec force et larmes brûlantes. « Cette lumière, père, m'est apparue. L'édifice de ma cellule s'est évanoui aussitôt, et le monde a disparu, fuyant devant sa face. Et je suis restée seule, moi, en compagnie de la seule lumière. Il y avait en moi une joie ineffable, qui est encore avec moi maintenant, un amour et un désir véhément, au point que des flots de larmes s'échappaient de moi comme des ruisseaux. » Le père spirituel lui dit alors, « Mon fils, c'est lui. » À ces mots, Siméon le voit de nouveau, et petit à petit, il est purifié complètement. Purifié, il prend de l'assurance et il interroge celui qu'il voit et lui dit, « Mon Dieu, est-ce toi ? » Celui-ci répond, « Oui, c'est moi, Dieu, celui qui s'est fait homme pour toi. Et voici que je t'ai fait, comme tu vois, et que je te ferai Dieu. » Ce dialogue est très beau. Siméon voit la lumière, et cette lumière se révèle être le Verbe incarné, Jésus, qui lui-même nous avait dit « Je suis la lumière du monde ». Siméon est donc en présence de celui qui est la lumière du monde, et cette lumière qui est Dieu lui dit « Tu me vois, et tu deviendras ce que tu vois, parce que je te ferai Dieu par grâce. » Le Verbe de Dieu, en effet, s'est fait semblable à nous dans l'incarnation. Il a pris chair de notre chair, mais il veut nous faire semblable à lui, nous rendre participants de sa nature divine. Et cette transformation se fera par la lumière de grâce, c'est-à-dire par le Saint-Esprit, illuminant notre cœur et nous faisant devenir le temple de Dieu, rempli de la gloire de Dieu. Dans un autre petit témoignage, il évoque cette transformation intérieure, cette inhabitation du Dieu lumière en lui. Un jour, j'étais allé saluer l'image immaculée de celle qui t'a enfanté, et je me prosternais devant elle. Toi-même, Seigneur, avant que je me fusse relevé, au-dedans de mon cœur misérable, comme si tu l'avais transformé en lumière, tu te fis voir. Et alors je connus que je te possède consciemment en moi. Voyez, en goûtant la présence de cette lumière en lui, il goûte de fait une joie ineffable, une paix qui surpasse toute intelligence, une jouissance, une allégresse. Et surtout, il devient lumière lui-même, grâce à celui qui est venu dans ce monde pour illuminer tous les hommes qui autrement seraient restés assis dans les ténèbres et l'ombre de la mort, comme Zacharie le disait. « Dieu est lumière, dit encore saint Siméon, et ceux qu'il embrasse, il les fait participer, selon la mesure de leur purification, à son propre éclat. Et c'est alors que la lampe éteinte de l'âme, c'est-à-dire l'intelligence, connaît qu'un feu divin la saisit et s'est embrasée. L'homme devient alors l'image du Christ, qui était préfiguré dans l'Exode sous la figure du buisson ardent. Dans cette expérience de la lumière transfiguratrice, le corps devient lui-même porteur de la lumière de Dieu. Il devient tout entier lumière sans être consumé par ce feu divin, comme saint Siméon en témoigne. « Tu vois en toi, dit-il, la richesse de la grâce du Saint-Esprit qui illumine et transforme en un vrai soleil l'intérieur de ton cœur, et tu constates clairement que s'accomplit en toi le miracle du buisson, ton âme brûlant dans l'union à l'inaccessible feu, mais sans se consumer, exempte qu'elle est de toute passion. » C'est étonnant à quel point nous avons l'impression d'entendre saint Jean dans le témoignage que nous donne saint Siméon. Écoutez plutôt. Nous ne parlons pas en effet de ce que nous ne savons pas, mais nous témoignons de ce que nous savons, que déjà dans les ténèbres brille la lumière. Nous, nous témoignons que Dieu est lumière, que ceux qui ont été jugés dignes de le voir l'ont tous contemplé comme lumière, que ceux qui l'ont reçu comme lumière, parce que devant lui marche la lumière de sa gloire, et qu'il est impossible qu'il apparaisse sans lumière, que ceux qui n'ont pas reçu la lumière n'ont pas encore reçu la grâce, car ceux qui ont reçu la grâce ont reçu la lumière de Dieu et Dieu lui-même. Comme l'a dit la lumière, le Christ, j'habiterai en eux et m'y promènerai. Cette lumière pour Siméon est bien visible, et elle est en même temps spirituelle. Non seulement elle inonde l'intérieur de sa cellule monastique, mais en même temps elle illumine son esprit et vient au centre de son cœur. Et Siméon comprend que cette lumière veut être vue de tous, et non pas seulement de quelques mystiques dans quelques monastères perdus dans la montagne. Voici ce qu'il dit. « La lumière qui éclaire proclame à grands cris, « Je suis la lumière du monde, je l'étais, je le suis et je le serai, et je veux que l'on me voie. » Et d'ailleurs, cela s'accorde avec ce qu'il avait lui-même dit, Jésus. La lumière n'est pas faite pour être mise sous le boisseau, mais sur le lampadaire, pour qu'elle brille dans toute la maison. En fait, Dieu veut tout envahir de lumière, et ainsi chasser l'obscurité non seulement de nos cœurs, mais de ce monde. Saint Siméon, ébloui, ne peut alors que rendre grâce devant l'immense bonté miséricordieuse de Dieu qui vient se révéler à lui. « Je te rends grâce, dit-il, car toi-même, tandis que j'étais assis dans l'obscurité, tu t'es révélé à moi, tu m'as illuminé, tu m'as accordé de voir la lumière de ton visage que nul ne peut soutenir. Tu es apparu comme une lumière, tu m'as éclairé tout entier de toute ta lumière, et je suis devenu lumière dans la nuit. » Voyez la transformation. Dieu se révèle comme lumière pour opérer la transfiguration de ceux qui l'accueillent. Et les moines, purifiés par la pénitence et unis avec Dieu, deviennent comme le soleil, nous dit saint Siméon. Leur cellule est un ciel, et eux, ils sont un soleil. Et la lumière est en eux, la lumière divine est sans déclin qui éclaire tout homme venant en ce monde, et elle vient de l'Esprit-Saint. Cependant, saint Siméon est persuadé que cette grâce est pour tous, y compris pour les laïcs dans le monde, car Dieu a soif de se révéler comme lumière, d'illuminer les cœurs, de transfigurer les hommes par son Esprit-Saint et par eux d'illuminer le monde. C'est pourquoi Dieu a voulu manifester cette grâce dans son serviteur saint Siméon, mais aussi dans une multitude d'autres saints. Je pense notamment à saint Séraphin de Sarov en Russie au XVIIe siècle, que son ami Motovilov a vu transfigurer, le visage rayonnant comme un soleil, les vêtements devenus comme lumière, et lui-même goûtant en sa présence une joie immense, une douceur inexprimable et une paix céleste. Cette expérience, c'est comme l'anticipation de notre vie dans la gloire de Dieu quand nous serons au ciel. Le Seigneur, dans sa bonté, nous en donne les prémices. Il lève le voile sur le mystère qu'il veut commencer à opérer en nous déjà sur la terre et qui nous attend en plénitude au ciel. Alors, lui, le Dieu et maître de l'univers, nous dit saint Siméon, brillera à ce moment de la gloire de sa divinité. C'est alors aussi que le soleil matériel sera voilé par l'éclat du maître et deviendra invisible, comme maintenant les astres s'effacent devant le soleil et ne se voient plus. Et c'est lui uniquement qui sera à la fois jour et Dieu, lui qui pour l'instant est invisible à tous les yeux, et lui qui habite la lumière inaccessible se révélera alors à tous tel qu'il est, comblera toute chose de sa propre lumière, et deviendra pour ses saints le jour de joie éternelle, sans déclin et sans fin. Eh bien, dans l'espérance de ce jour glorieux de Dieu, où nous vivrons dans la clarté du Saint-Esprit, prions avec saint Siméon. Ô mon Dieu, qui aime à pardonner, mon Créateur, fais grandir sur moi l'éclat de ton inaccessible lumière, pour remplir de joie mon cœur. Ah, ne t'irrite pas, mais fais resplendir mon âme de ta lumière, car ta lumière, ô mon Dieu, c'est toi.